Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Seconde partie, la gloire et l'oubli. Nous avons laissé Rouget de Lisle à Paris en 1791, où il fait ses premiers pas d'auteur de théâtre dans la capitale. Il a 30 ans, c'est alors un jeune officier plus préoccupé par l'écriture de ses drames que par la chose militaire. Il ne compose pas encore de musique. Lorsqu'enfin, sa pièce Bayard en Bresse est reprise et finit par connaître un semblant de succès, le public réclame d'en voir l'auteur. On appelle le compositeur sur scène. Mais le nom du librettiste est passé sous silence. Rouget de Lisle, dépité, achète les journaux dans lesquels le spectacle était annoncé. Mais comble d'infortune, la pièce est décrite comme étant l'œuvre d'un certain Piis. Il a beau envoyer un mot de protestation, rien n'y fait. Comme le dit l'adage latin, le verbe vole, l'écrit reste. Bayard reste dans le célèbre dictionnaire des opéras comme l'œuvre de ce mystérieux monsieur Piis, écrivain qui semble n'avoir d'ailleurs jamais existé. Le sort continue de s'acharner sur le poète, son Bayard ayant attiré l'attention du musicien le plus célèbre de l'époque, Grétry. Ce dernier lui propose une collaboration sur un projet d'opéra, Les Deux Couvents. Hélas, le compositeur la juge si négligeable dans sa propre production qu'il renonce à la faire publier et n'en parlera même pas dans ses mémoires. Les Deux Couvents passent à la trappe, reléguant aux oubliettes le nom de leur librettiste. Rouget ne désarme pas. Profitant de la fureur anti-religieuse qui sévit sous la Révolution dans Paris, il publie un article pour expliquer que son livret veut précisément dénoncer l'obscurantisme religieux qui règne dans les monastères et glorifier la sagesse comme privilège de tous les hommes. On a quelques doutes sur cet argument à la lecture de ce texte qui est d'une effarante niaiserie.
Un jeune homme fort familier d'un certain couvent d'hommes obtient la permission de se promener dans le jardin sous prétexte de cultiver des fleurs. Il en profite pour percer un trou dans le mur qui communique avec le couvent des femmes où est enfermée une jeune pensionnaire qu'il aime et qu'il veut épouser. Le supérieur du couvent, apprenant la chose, fait enchaîner le malheureux dans une cave. Par chance, des maçons viennent le délivrer. Tout finit heureusement et la pièce s'achève par un concert donné par les religieuses en hommage au héros.
Lors de la première de la pièce, on annonce Grétry, compositeur génial de l'ouvrage. Rouget est dans la salle. Il attend fébrilement qu'on prononce son nom. Mais le mauvais sort n'en a pas fini avec lui. À la suite d'une erreur, c'est un autre compositeur, un certain Després, qui est désigné comme auteur du livret. De plus, le succès n'est pas au rendez-vous, on échappe de peu au désastre. En désespoir de cause, Rouget demande à Grétry la permission de changer le nom de la pièce. Il propose le despotisme monacal, sans plus de succès. Puis un nouveau titre encore, le despotisme monacal découvert par les sans-culottes. Rien n'y fait. On annonce alors le despotisme monacal découvert par les braves sans-culottes. Le résultat est catastrophique. L'ouvrage est supprimé de la programmation. C'est au terme de ces circonstances malheureuses que Rouget de Lisle, qui se souvient soudainement qu'il est lieutenant, revient en Franche-Comté, lieu de son affectation officielle. Nous sommes en janvier 1792 et les menaces pèsent aux frontières. L'Autriche et la Prusse rassemblent des troupes et ne cachent pas leur velléité de guerre contre la France. Rouget ne renonce pas pour autant à ses aspirations profondes et s'est paré de son hypothétique gloire parisienne qu'il se présente chez Dietrich, maire de Strasbourg, qui réunit chez lui la fine fleur du monde politique et artistique de l'Est de la France. Dietrich, bon chanteur, prête sa voix aux chansons composées par Rouget qui l'accompagne de son violon. La femme de Dietrich, bonne musicienne, est au clavecin. Rouget apparaît à ce moment-là comme un jeune homme enthousiaste, passionné. Les événements se précipitant, son ardeur croît de jour en jour. Et si ses convictions politiques sont de l'avis de tous peu définies, on reconnaît en lui un artiste poussé par l'amour de la liberté. Et cela suffit pour le moment à en faire un ami de la Révolution. C'est donc dans la nuit qui suit la déclaration de guerre à l'Autriche qu'il commence à composer un chant de guerre à l'armée du Rhin qui deviendra notre Marseillaise. Chanté lors du fameux déjeuner chez Dietrich, elle va se répandre avec la rapidité de l'éclair. Dans Strasbourg, chaque salon, chaque tripot affirme être le lieu où a été chanté pour la première fois le fameux hymne. La salle dite du miroir, le café La Lanterne, puis le théâtre de Strasbourg lui-même revendiquent la primeur de l'événement. Le seul témoignage officiel nous est donné par une publication du journal L'Intermédiaire, près d'un siècle après l'épisode.
C'est le dimanche qui suivit la déclaration de guerre, le 29 avril, que la garde nationale, rassemblée sur la place d'armes de Strasbourg, fit entendre le chant de guerre de l'armée du Rhin devant le bataillon de Saône-et-Loire. La troupe défila pendant que, pour la première fois, la musique jouait l'hymne. En marchant aux accents inconnus de cette musique, les soldats se sont sentis animés d'une ardeur subite et inaccoutumée. « Qu'est-ce donc que ce diable d'air » disait-il. « Il a des moustaches !»
Rouget de Lille sent que cette fois, ça y est, son heure de gloire a sonné. Avec l'aide de Madame Dietrich, il multiplie les copies de son œuvre et les envoie tous azimuts. Il a pris soin de dédier l'hymne au général Luckner, commandant en chef de l'armée du Rhin, et d'envoyer un exemplaire dédicacé à Grétry, qui jouit toujours à Paris de la réputation de prince des compositeurs. Fort de l'élan inattendu donné à sa carrière par sa dernière production, Rouget de Lille se remet à composer des pièces et des vers. La verve patriotique de son hymne n'a pas chassé son fameux penchant pour la mièvrerie. Quelques jours après l'exécution de son œuvre à Strasbourg, il écrit un poème.
« Parler sans art, penser sans phare, c'est ma devise. » Aller, venir, toujours courir, tout à ma guise, c'est mon plaisir. Femme discrète et joliette, mais pas coquette, c'est mon désir. Pour la patrie, donner ma vie, c'est mon espoir. Mauvaise tête, le cœur honnête, c'est mon avoir. Amour extrême aux bonnes gens, guerre aux méchants, c'est mon système.
On reste stupéfait devant tant de maladresse et de naïveté. Tandis que Rouget se voue à l'écriture de ses plates niaiseries, son chant de guerre enflamme les cœurs partout en France. En juin 92, il est déjà dans le Midi. À Paris, le même du mois, on a décidé l'appel de 20 000 recrues. Et c'est Marseille qui, la première, se décide à envoyer 600 volontaires qui sachent mourir, selon le mot du député Barbaroux. Comment le chant de l'armée du Rhin est-il arrivé dans la ville phocéenne? Voilà qui reste un mystère. Toujours est-il que c'est aux accents du chant de Rouget de Lille que les volontaires marseillais se mettent en route pour Paris. Durant la longue route qui les mène à la capitale, on appelle les villages à rallier la troupe en chantant « Aux armes, citoyens !» L'hymne est maintenant devenu cri de ralliement. Parvenu enfin à Paris, on le chante en continu et bientôt le refrain s'invite dans les théâtres, interrompt les représentations, surgit quelquefois même entre deux actes d'une même pièce. Le 10 août, c'est sur les notes de ce chant que les sans-culottes galvanisées prennent d'assaut les Tuileries. Parvenu dans les appartements de la reine, il jette le mobilier par la fenêtre, sauf le clavecin. L'un des assaillants, musicien amateur, s'y assoit et entonne l'hymne patriotique.
Voilà tous ces hommes furieux, sanglants, qui oublient leur fureur au moment même. Ils font chorus autour du clavecin, se mettent à danser en rond et chantent l'hymne national.
L'hymne national, c'est bien ce qu'est devenu, en quelques semaines, le chant pour l'armée du Rhin, qui, glorifié par les Marseillais, va à présent porter leur nom. On en parle partout dans Paris. Les journaux en publient les paroles, dont le célèbre journal Le Père Duchesne. Lors de la victoire de Valmy, le 20 septembre 1792, l'œuvre est chantée par tous les corps d'armée. Elle devient un gage de succès, et lorsqu'un bataillon échoue dans quelques combats, c'est évidemment parce qu'il n'a pas chanté la Marseillaise. Cependant, Rouget de Lisle, qui se trouve toujours là où on ne l'attend pas, s'est montré scandalisé par l'épisode du 10 août, la prise des Tuileries, qu'il appelle lui-même « catastrophe ». Il n'en faut pas plus pour qu'il soit arrêté comme suspect et emprisonné. Durant les quelques jours de sa captivité, la Marseillaise s'est enrichie d'un nouveau couplet. « Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. » Un certain Pessonneau en revendique la paternité. Rouget n'en sait rien. Depuis sa geôle, il s'épouvante seulement de voir son œuvre accompagnée des massacres.
Bailly, maire de Paris, était un parent de Rouget. « Ah, de Lisle !» dira plus tard un journal. « Vous aimiez tendrement votre oncle. Eh bien, les cruels, pendant votre captivité, chantaient votre hymne en signe d'allégresse lorsqu'ils le traînaient à l'échafaud. »
Cependant, c'est aussi dans ces moments dont la France peut s'enorgueillir que la Marseillaise va faire entendre ses plus beaux couplets. Après la victoire de Valmy, elle remplace définitivement le Te Deum, chant millénaire auquel on associait tout événement marquant. Napoléon, soucieux de réunir une France divisée dans sa vision immense, fera toujours résonner les deux airs, le Te Deum et la Marseillaise. Hélas, Rouget de Lisle, pour sa part, lui, va sombrer presque aussitôt dans l'anonymat le plus cruel. La Révolution a passé. Enthousiaste, comme toujours, il se prend d'admiration pour Bonaparte, mais commet l'erreur de voter contre sa nomination au consulat à vie. À Paris, il propose un nouvel opéra d'une désolante vacuité, Jaco à l'école des mères, qui ne rencontre pas de succès et ne trouvera pas d'éditeur. Il multiplie les lettres à Bonaparte, lui prodiguant même des conseils pour gouverner. On imagine la réaction du futur empereur à la lecture de ces missives longues de plusieurs pages, où le dithyrambique alterne avec les lamentations les plus désolantes. En 1800, Rouget de Lisle écrit au premier consul.
« Général, pourquoi ne m'emmèneriez-vous pas avec vous ? Les occasions ne vous manqueront pas de tirer de moi quelques parties. Emmenez-moi comme officier de génie, comme simple grenadier, et pourquoi pas comme votre barde. Mais enfin, emmenez-moi. »
Mais le destin en a décidé autrement. Rouget va sombrer dans l'oubli le plus total. Il songe à revenir chez sa mère. À l'heure de la Restauration, il écrit un hymne pour Louis XVIII. « Dieu conserve le roi ».
Vive le roi, noble cri de la vieille France, cri d'espérance, de bonheur, d'amour et de foi.
À la lecture de ce refrain, on se demande comment Rouget de Lisle a pu échapper à une mention dans le fameux dictionnaire des girouettes qui pointait du doigt tous ceux qui avaient épousé la cause d'un régime puis de l'autre. À cette époque, à Paris, il vit un temps dans un misérable hôtel garni. Un jour, un homme l'aborde dans la rue.
« Vous êtes Monsieur Rouget. Permettez-moi de vous dire mon admiration pour ces couplets de votre Marseillaise. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Quels nobles accents vous avez trouvés. Quel génie vous a inspiré. »
Rouget l'interrompt.
« Vous êtes bien aimable, je vous remercie, mais ces couplets sont les seuls qui ne sont pas de moi. »
Chaque bouleversement politique ou social donne à Rouget de Lisle l'idée d'une nouvelle composition. Lors de l'inauguration de la statue d'Henri IV sur le Pont Neuf, il compose un hymne à Henri IV. Après les trois journées de juillet 1830, sensible soudainement à la question ouvrière, il écrit un hymne des industriels. Peine perdue. Ces dernières années seront celles de la déchéance. Il va même connaître la prison pour dette, avant que le roi Louis-Philippe ne lui accorde une petite pension. À 76 ans, Rouget de Lisle meurt abandonné de tous, le 27 juillet 1836, a choisi le roi. Lors de ses obsèques au cimetière de Thiers, il se trouvera tout de même quelques notables pour faire le déplacement. Et l'on raconte aussi qu'un petit groupe d'ouvriers qui se trouvait là entonna faiblement « Marmonna, la Marseillaise ». Le 14 juillet 1915, les cendres de Rouget de Lisle sont transférées aux Invalides. Depuis, il a souvent été question de transférer sa dépouille au Panthéon. En l'y accueillant, la patrie reconnaissante rendrait un hommage tardif, certes, mais ô combien mérité, à l'inoubliable compositeur de la Marseillaise. C'est la fin de ce double épisode consacré à Rouget de Lisle, auteur de la Marseillaise. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Christophe Daviau. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.